Dans le livre de Job, Job au chapitre 22, et à partir du verset 21, nous lirons du verset 21 au verset 30. Job chapitre 22, verset 21. Alors j'ai une idée, mais je ne sais pas si elle est bonne. J'hésite, hein. Je ne sais pas. Ça vous dit qu'on se lève pour lire ce texte ? Hein? Ouais. On se présente devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quand quelqu'un d'important entre dans la pièce, on se lève et on va lire la parole de Dieu. Évidemment, il est déjà présent dans ce lieu, mais on veut lui rendre hommage en s'attachant à ces quelques mots. Donc à partir du verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Pouvez-vous rasseoir ? Non, vous rasseoir, hein. Voilà. J'espère que vous serez plus en forme tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les versets que l'on vient de lire, il y en a 10 hein, au total, il y a quand même, pratiquement dans chaque phrase, dans chaque verset, il y a un mot, une expression que vous pouvez prendre comme argent comptant et votre vie sera transformée. Pratiquement à toutes les lignes, pratiquement à tous les versets, tous les bouts de phrases que l'on a lus, il y a quelque chose d'extraordinaire. On parle de succès, on parle de lumière, on parle de bonheur, on parle d'exaucement, on parle de relèvement, on parle de paix. Quel programme, quel programme. À tes résolutions répondra le succès et tu accompliras tes vœux. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des vœux pour le début de l'année. Il est encore temps d'en faire, on n'est que le 3. Donc, avez-vous quelques idées sur comment vous voyez votre vie en 2016 ? Je prévois de grandir. Pour moi, c'est fini. Je prévois d'être intelligent. C'est fait. Je prévois d'être riche. Je prévois de gagner au loto. Je prévois. Il y a tellement de choses qu'on aimerait, hein. Et puis, quand on arrive en fin d'année, on dit, on coche les croix. Où il n'y a pas eu, et puis on dit, oula, il y en a des croix quand même. En fait, on a des projets, on a des idées, on aimerait que, mais on ne sait pas trop hein, si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Parce que dans le fond, on s'aperçoit que rien ne remplacera une expérience avec Dieu, rien, vraiment rien. Dans le contexte des quelques versets que l'on a lus, vous avez un homme qui s'appelle Eliphaz qui s'adresse à Job. Job est quelqu'un d'extraordinaire, c'est franchement quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui, sans nul doute, méritait d'être connu, avoir sa compagnie et connaître quelqu'un comme ça, c'était connaître une belle personne, quelqu'un qui avait de la valeur. Néanmoins, on est assez surpris de voir avec quel acharnement plusieurs de ces personnes vont discuter avec Job, avec des mots durs, avec des paroles sévères, voire même violentes, hein, pour certaines. C'est quand même assez difficile à entendre et je ne suis pas persuadé que Job méritait les mots d'Eliphaz à son encontre, mais on va les prendre pour nous. On va prendre toutes ces expressions pour nous, parce que, à l'évidence, si Job n'était pas réellement concerné par tout ce que Eliphaz est en train de lui expliquer, ce que Eliphaz dit de l'expérience avec Dieu, ça c'est intéressant. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques moments là-dessus, en vous rappelant ben, que le bonheur, ça existe, mais que ça se construit également, et que la paix, ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprécie dans la mesure où c'est vécu. Si on vit pas la paix, on peut en parler, on peut l'écrire dans des livres, ça ne changera rien à votre quotidien. Mais si vous l'expérimentez, s'il y a quelque chose de vécu en vous, ça changera tout. Et quand un regard abattu, un regard questionnant, un regard de détresse se pose sur un Dieu tout-puissant, alors là, il y a un bouleversement qui se passe, il y a un changement radical qui s'accomplit. Je m'aperçois que bien souvent, Dieu a frappé à la porte des cœurs. Je ne sais pas, ça remonte à quand la dernière fois que Dieu est venu frapper à votre porte, mais j'en suis sûr qu'il l'a fait. D'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Il l'a peut-être fait 10 fois, il l'a peut-être fait 100 fois. Je ne sais pas si vous avez toujours pris attention, été alerté par ce que vous entendiez, mais je m'aperçois qu'avec un discours différent, avec une approche différente, Dieu a toujours poursuivi le même but. Sortir les personnes de leur travers, de leurs difficultés, pour les conduire dans un endroit, comme c'est dit dans ce livre de Job, dans un endroit où on peut goûter la paix, on peut apprécier le bonheur, on peut vivre une vie réelle, une vie heureuse et une vie épanouie. Alors, quand je lis l'expérience qu'a fait cet homme qui s'appelle Simon, est-ce qu'il y a un Simon dans la salle? En deuxième prénom, troisième prénom, il n'y en a pas? Non? Bon, ben voilà, j'en ai trouvé un, moi. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, il habite pas très loin de Gap, à Philippe. Dans une ville de Samarie, un évangéliste arrive. Cet homme s'appelle Philippe et il s'approche des habitants de cette ville et il va leur annoncer l'évangile. L'évangile apparemment n'était pas connu, on savait pas trop. Qu'est-ce que l'évangile voulait bien dire? Mais dans cette ville, on aimait tout ce qui était un petit peu surnaturel, ou en tous les cas étonnant. Je ne sais pas dire si c'est un hypnotiseur, si c'est un médium, si c'est... La Bible définit comme un magicien, quelqu'un qui faisait des tours, jouait de sacrés tours d'ailleurs, tours de passe-passe, et puis comme un magicien, comme on l'imagine, il faisait des choses surprenantes, des choses très étonnantes, mais ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que quand l'évangéliste arrive dans cette ville, des choses vont se passer beaucoup plus importantes. La Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 5, verset 6, « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait l'évangéliste Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » On a presque envie de dire que, à partir du moment où quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf arrive quelque part, ça crée de l'émulation. Forcément, ça attire le monde et les personnes sont venues et puis il y a quand même eu des résultats, hein, puisqu'il y a eu des guérisons, il y a eu des apaisements, des délivrances. On ne parle pas de trois bricoles, ce sont des choses très très importantes qui se sont accomplies. Imaginez un aveugle qui voit, imaginez un boiteux, un paralysé qui se lève et qui se met à courir, imaginez quelqu'un de totalement fou ou tout du moins n'ayant pas tous ses esprits, mais qui, d'un instant à l'autre, retrouve un équilibre mental, retrouve une santé mentale, et vous pouvez discuter avec lui, il raisonne, il réfléchit, il est bien calme et posé, c'est quand même des choses importantes. Et voilà ce qui est en train de se passer dans cette ville, donc la foule accourt. La Bible dit, ça c'est surprenant, c'est qu'une grande joie est arrivée en même moment, au même moment. C'est quasi évident. Hein. Si le désespoir suit les malheurs et les peines et les douleurs et les souffrances, la joie va forcément suivre le changement de ces douleurs en apaisement, le changement de la maladie en guérison. Tout cela va produire de la joie. La Bible dit que dans cette ville existait un homme, ce fameux Simon. Lui était magicien, lui avait étonné les gens, mais il n'avait jamais guéri personne. Il n'avait jamais fait de miracle, il n'avait jamais pu apporter la solution à un problème que l'on appelle incurable. Bref, il avait plutôt étonné la foule, et d'ailleurs, les gens ne vont pas s'y tromper, parce que pendant longtemps, il avait provoqué l'étonnement du peuple, mais pas la joie. Et quand l'évangéliste accomplit ses miracles au travers de la prédication de l'évangile, en tout premier lieu, la Bible dit que les gens vont faire la différence, et ils vont comprendre que là, il se passe quelque chose, et que ce qui est en train de se passer avec cet homme, cet évangéliste, c'est ni plus ni moins une manifestation de la puissance de Dieu, mais entendez la différence, celle-ci, c'est la grande. Comme si quelque part, ce que Simon faisait, qui n'avait pas d'égal jusqu'à maintenant, n'avait pas de rival jusqu'à maintenant, était considéré comme quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Il suffit que l'évangéliste arrive, et non pas pour comparer, mais ni plus ni moins qu'en annonçant l'évangile et en voyant tous les fruits, tous les résultats, on a vite fait pâlir la magie de Simon, on l'a vite mis de côté, on l'a vite éloigné, parce qu'on a vu la différence. Une expérience avec Dieu, ça se vit, ça se sent. Quand on fait une expérience avec Dieu, il y a une différence entre avant et après. Il y a forcément une différence. Vous vous souvenez de ce que certains disaient un peu plus haut dans les montagnes, en parlant de l'hiver, certains endroits un peu rudes du côté de Fressinière. Il y avait deux saisons, il y avait 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. C'était encore pire. 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer. C'est pas comme dans le Nord où il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et le 15 août. Non, c'est pas pareil. Là, c'était terrible tout le temps. Sauf que des fois, c'était encore plus terrible. Vous vous rendez compte? Je crois qu'à un moment donné, on aimerait bien que les situations terribles et difficiles s'arrêtent. Et que non seulement ça s'arrête, mais que ça repart dans l'autre sens. Eh bien, c'est possible. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Et c'est ce que Simon peut expérimenter. Je m'aperçois que ça réclamait de la part de Simon pas grand-chose. Simon, en voyant, en entendant, en observant, en écoutant, il n'avait qu'une seule chose à faire. Il n'avait qu'à croire. Cet après-midi, vous n'avez qu'une seule chose à faire, croire le message de l'Évangile. C'est pas plus compliqué que cela. Dieu vous demande pas d'aller en haut du chaillol, Dieu vous demande pas de faire une course à pied de 40 km, un marathon. Non, simplement de croire. Simplement de croire. Il n'avait qu'à croire, il n'avait qu'à accepter. Ce message, il n'avait qu'à le recevoir, mais de bon cœur, de tout son cœur. Il n'avait qu'à demander à Dieu de l'aide et lui dire, mais éclaire-moi, montre-moi. Il avait tout simplement besoin de se laisser faire. Et il va, d'une certaine manière, sembler mettre le pied à l'étrier. La Bible dit que hommes et femmes se feront baptiser en voyant ce qu'ils voyaient, en entendant ces explications et ce message de l'Évangile. Et la Bible dit que même cet homme, Simon, a cru et il s'est même fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Extraordinaire, franchement extraordinaire. Et puis les jours passent et Simon est curieux de cette magie, je mets ça volontairement dans le texte, curieux de ces manifestations, curieux de ces miracles, curieux de ces délivrances, ces formes d'exorcisme. Il aimerait bien comprendre ces choses-là. Alors, il est surpris, mais il observe, il essaye d'apprendre. Et puis arrivent là quelques autres hommes de Dieu qui viennent de Jérusalem, quelques apôtres, viennent par là et parmi ceux-là. Eh bien, la Bible dit que Pierre et Jean arrivent, et dès qu'ils arrivent chez les Samaritains, ils prient pour eux, afin qu'ils reçoivent la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, ils reçoivent le Saint-Esprit après qu'on leur eut imposé les mains, qu'on ait prié pour eux. Ça a été tellement flagrant, ça a été une expérience tellement visible et incroyable, que le cœur de Simon s'est retourné. Il s'était déjà retourné une fois, mais malheureusement, il va se retourner une deuxième fois. Et si vous le retournez 2 fois, ça veut dire qu'il est revenu au point de départ, malheureusement. Il avait fait volte-face, sauf qu'il va faire un tour complet. Et là, tout d'un coup, il se dit, mais avec une telle puissance, mais mon avenir est assuré. Hein. Je suis célèbre, je suis riche, je suis le plus grand des magiciens, Mandrake à côté, ça ne vaudra plus rien. Hein. Je suis le roi du monde. Alors il va essayer de négocier. En demandant aux apôtres, en demandant à Philippe, j'aimerais bien avoir cette puissance. Écoute, je suis prêt à apprendre, je suis même prêt à donner de l'argent pour cela. Grand mal lui en a pris. Simon a été averti, et il a été alerté, si vous voulez, que lorsqu'un cœur n'est pas droit devant Dieu, il ne reçoit rien. Et la leçon que l'on a de Job, et c'est ce que dira Eliphaz, c'est que quand le cœur est droit, alors tout devient accessible et tout devient possible. Sauf que vous ne pouvez pas faire semblant d'avoir un cœur droit, parce que vous pouvez me tromper, vous pouvez tromper ceux qui sont autour de vous, mais il y en a un que vous ne tromperez jamais, c'est Dieu. Lui, il sait si votre cœur il est droit ou s'il n'est pas droit. Lui sait si vous dites la vérité ou si c'est un mensonge. Lui sait si ce que vous proclamez à l'instant est une vérité ou si c'est simplement de la façade, si c'est pour faire semblant. Dieu le sait. Le cœur de Simon n'était pas droit. Le cœur de Simon a rabaissé l'œuvre de Dieu à une histoire d'argent. Je suis un petit peu triste, quelquefois même effaré, quand on veut associer les affaires de Dieu avec des histoires d'argent. Vous croyez que la grâce, ça s'achète ? Vous croyez que la bénédiction, ça se monnaie ? Vous croyez que plus on est riche, et plus le fauteuil sera large dans le ciel ? Et plus on est pauvre, et moins il y aura de la place, ou l'inverse ? Mais ça se monnaie pas, ça. Ça se monnaie pas, la bénédiction de Dieu. Il est dans de beaux draps, le pauvre Simon. Et il ne réalise pas qu'il est enfermé finalement dans ce que l'évangéliste appellera les liens du péché. Voici ce que Simon entendra sur sa propre vie, sa propre personne. « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, tu as cru. » Pourtant, il avait cru, il s'était fait baptiser. Mais là, il s'est égaré dans ses pensées. « Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens du péché. La vérité, c'est que, et c'est l'apôtre Paul qui dira cela, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Je m'explique. Tout ce qui est de notre nature, impulsive, caractérielle, mauvaise, tout ce qui nous pousse au mensonge, à la violence verbale, aux mauvaises pensées, toutes ces choses-là, c'est attaché à notre personne. C'est pas ça qui montera au ciel. Ce qui est sauvé, c'est votre âme, dans la mesure où elle est lavée, dans la mesure où elle est justifiée. Sauf que si vous vivez simplement pour apprécier ces choses de la terre, et que vous faites fi des soupirs de votre âme, alors vous négligez la faveur de Dieu, vous négligez sa main tendue, et le résultat, c'est que quand vous mourrez, ben, votre âme ne peut pas aller au ciel, elle n'a pas été justifiée, elle n'a pas été nettoyée, elle n'a pas été lavée, votre âme n'a pas été pardonnée, et une condamnation demeure sur vous, c'est la condamnation du péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. Ce que Simon ne réalise pas, c'est qu'un cœur qui n'est pas droit. Et quand on met l'argent dans ces histoires-là, et quand on est tenu par les liens du péché, il y a besoin de repentance, ce que Simon ne fera pas. La première bonne nouvelle cet après-midi, c'est que vous pouvez vous repentir, c'est possible. Et vous avez l'opportunité de le faire cet après-midi encore, c'est franchement accessible. Il était le seul, Simon, à pouvoir prier pour sa propre vie. Quand Pierre va lui dire « Prie le Seigneur afin que toutes les mauvaises pensées de ton cœur t'échappent, qu'elles partent de toi », Simon dira à Pierre « Priez vous-même pour moi ». Vous vous rendez compte, il n'avait même pas le courage de prier pour lui. Le pouvait-il ? Était-il à ce point esclave ? Était-il à ce point enchaîné ? Certainement, il avait besoin de grâce et il n'arrivait pas à aller au-delà. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est de vous guider, parce que un aveugle ne peut pas se guider tout seul, il a besoin d'être aiguillé, il a besoin d'être conduit, parce qu'il ne voit pas. C'est un petit peu ce que l'on est sans Dieu. Alors, on a besoin d'être guidé, et pour ce faire, Dieu mettra des personnes à vos côtés pour cela. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'histoire d'un homme qui était un homme dont un chrono s'était enclenché malgré lui, à savoir qu'il était malade et que, dans le fond, les jours étaient comptés. Les jours, les semaines, les mois, ça ne reste que des jours de toutes les manières, même s'il s'agit d'années, ça se transforme en quelques jours à la fin. Les jours sont comptés. Alors, que fera-t-il de sa vie ? Que fera-t-il du reste de sa vie ? Cet homme ne veut visiblement pas mourir, parce que tant qu'on est vivant, si ça peut durer le plus longtemps possible, tant mieux. Et en bonne santé, tant mieux. Donc, il veut vivre, sauf que quand le chrono s'est enclenché, vous Vous ne pouvez pas l'arrêter comme cela. La maladie peut vous rattraper, un cancer, une maladie incurable. Il y a quelque temps, au mois de décembre, on a eu la fête pour le Téléthon, comme chaque année depuis très très longtemps. Et on sait très bien que toutes ces formes de myopathie, malheureusement, emportent souvent des jeunes gens qui meurent toujours trop vite. Il y a comme quelque chose qui dégénère et ça se remet pas. Et c'est douloureux d'imaginer ça. Cet homme, général d'armée, cumule les valeurs. Il a des médailles, il a des décorations. C'était un homme considéré. C'était un homme fort et vaillant. C'était un homme qui avait réussi. C'était un homme qui avait la carrière déjà derrière lui. Mais c'était un homme qui, malheureusement, avait aussi des défauts. C'était pas un défaut en soi, mais dans le contexte biblique, ce n'était pas un juif, c'était un étranger qui plus est appartenant à un pays, la Syrie, qui avait fait la guerre au peuple d'Israël. Donc pour les juifs, tous les Syriens étaient leurs ennemis, forcément, parce qu'ils leur faisaient la guerre. Donc il va cumuler cela, il va ajouter à cela sa maladie, sa lèpre. C'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui finalement ne plie pas facilement. Mais j'ai envie de dire que c'est pas grave. Parce que vous pouvez avoir tous les défauts de la terre, même celui d'être obstiné. Vous pouvez frapper la tête contre ces promesses de Dieu. Je peux vous assurer que les promesses de Dieu sont plus solides que votre crâne, que votre tête. Et même si vous prenez la masse et que vous tapez bien fort, vous n'abattrez rien de toutes les certitudes, de toutes les promesses de Dieu. Et ces promesses-là en votre faveur. Naaman va avoir un privilège quand même. C'est qu'il va accepter ce que j'ai appelé le voyage de la foi, alors qu'il il entendra rapporter les paroles d'une jeune fille qui travaille chez lui. Cette jeune fille promettant la guérison à son maître s'il faisait le voyage jusqu'en Samarie. Là-bas, il y avait un prophète et cet homme de Dieu pourrait prier pour qu'il soit guéri. Bref, il accepte ce fameux voyage de la foi. Sur la parole d'une enfant, sur simplement quelques mots, et avec ça, hein, on ne pouvait pas téléphoner, on ne pouvait pas regarder un reportage sur Élisée, est-ce que c'est vraiment l'homme dont on parle, et pas la télé, hein, c'est difficile de se rendre compte. Alors il a fait le voyage, il a décidé de faire le voyage, et grand bien lui en a pris, parce que il va se retrouver face à un homme de Dieu qui ne considère pas qui il est, mais qui le considère comme un homme à qui Dieu peut faire grâce. Savez-vous que Dieu ne vous regarde pas comme vous êtes, mais Dieu vous regarde comme vous allez être. Eh oui, il sait tout ce qu'il peut faire dans votre vie. Et il ne regarde pas à vos défauts, il ne regarde pas à vos qualités, il regarde simplement à ce que vous êtes. Et si vous ne le connaissez pas, vous êtes perdu. Et si vous le connaissez, vous avez été sauvé un jour. Mais quel que soit l'état de votre vie, il peut encore intervenir en votre faveur. Alors sur la parole de ses serviteurs qui vont arrêter leur maître, je l'ai dit, colérique, un petit peu vaniteux et prétentieux. Oui, parce que pour tout vous dire, quand il va se retrouver devant le prophète ne sort même pas pour aller le saluer, faute diplomatique, sort même pas pour aller lui toucher la main. Il envoie un serviteur pour lui dire « Écoute, tu diras à cet homme qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. » Et basta, ça suffit. Ça fait un peu court quand même. Le général est un peu vexé avec le voyage qu'il vient de faire et il dit « J'attendais à ce que cet homme sorte lui-même, qu'il vienne lui-même en personne tout de même. Et j'attendais à ce qu'il convoque du monde et que sur la place de la ville, il agite la main et qu'il me guérisse. » Un peu prétentieux quand même, un peu prétentieux. Alors rien de tout ça, ben, il est vexé, alors il part en furie, en colère. Et ses serviteurs l'interpellent, l'arrêtent, en lui demandant « Écoute, réfléchis, peut-être qu'il ne faudrait pas prendre une décision trop hâtive, est-ce que tu es bien sûr ? Nous on te conseille plutôt. » Bref, avec des mots, avec la forme, ils arrivent à persuader cet homme de s'abaisser à ce discours pas tellement flatteur. De s'abaisser à ces quelques mots qui ne disent rien, ça trahit rien. Plonge-toi 7 fois dans l'eau et tu relèveras guéri. Ça trahit rien de miraculeux, rien. Il n'y a même pas de formule magique, il n'y a rien. Mais il y avait l'essentiel, il y avait le message divin. Et oui, il y avait la parole de Dieu, il y avait ce qui était essentiel. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une bonne formule magique, hein, j'en connais pas. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un message divin. C'est juste de ça. Cet homme va se laisser plier quand même et il va se plonger dans les eaux du Jourdain 7 fois. Et la 7e fois, quand il sort de l'eau, il est entièrement guéri. Entièrement guéri. Pour conclure sur l'histoire de cet homme, on s'aperçoit que ça ne va pas le laisser indifférent, hein, évidemment, mais il va confier son âme à Dieu. Il revient vers le prophète cette fois-ci, il veut le rencontrer, le prophète acceptera cette entrevue, c'est une autre rencontre, c'est plus la même chose, c'est plus le même homme. C'était un homme ravagé par la maladie, maintenant c'est quelqu'un qui est beau comme un bébé, comme la peau d'un jeune enfant, tout est redevenu extraordinaire, donc c'est pas le même homme, c'est pas la même personne. Et Naaman, ce chef d'armée, de confier sa vie entre les mains de Dieu, en demandant à Dieu de le guider jusqu'à la fin de ses jours. Ce sera la meilleure résolution que vous allez prendre en début 2016, de demander à Dieu qu'il guide votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Qu'il guide votre vie jusqu'à la fin de vos jours. C'est la meilleure des résolutions que vous pouvez prendre. Et puis, un dernier exemple qui est tellement parlant, vous avez besoin d'être averti, c'est fait. Vous avez besoin d'être guidé. J'aimerais que cette parole vous guide jusqu'à Jésus-Christ. Et une fois que vous vous trouvez devant Jésus-Christ, il faut être éclairé encore. Parce qu'on en connaît beaucoup qui se tiennent devant une croix et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, disant pourquoi il a fait cela, pourquoi il meurt comme cela, quel est le but, ça a servi à quoi. C'est difficile de vaincre son incrédulité, non? À chaque fois qu'on a essayé, on a perdu, on n'y est pas arrivé. C'est pas possible de vaincre son incrédulité. C'est pas possible de se dire, bon, je ne crois pas, allez, je décide de croire, et hop, c'est fait. Ça se passe pas comme ça, hein. C'est compliqué. Quelquefois, il faut manger la poussière, ou alors il faut malheureusement souffrir à tel point qu'on réalise qu'il n'y a absolument plus aucune autre solution. Et c'est l'histoire de cet homme, on ne connaît pas son nom, hein, mais on connaît son histoire dans les évangiles, qui avait tout, mais il ne le savait pas. Ça, c'est terrible. D'avoir tout pour être heureux et de même pas le savoir, de même pas s'en rendre compte. C'est dans le fond, quand vous l'avez plus, que vous réalisez tout ce que vous aviez. Mais avant ça, on ne s'en rend même pas compte. Cet homme vivait dans une maison riche, on manquait de rien, il y avait largement de quoi manger, il y avait le travail qui arriverait au bon moment, mais voilà, une forme de liberté, de sécurité. L'avenir était totalement assuré et cet homme ne se plaît pas dans cette vie-là. Je ne sais pas s'il a imaginé que c'était trop facile, mais il a pensé que c'était peut-être bien de vivre d'autres expériences. Alors il a ramassé tout ce qu'il a pu, l'argent qu'on lui a confié, et puis il est parti et il a dépensé rapidement tout ça, parce que malheureusement, ça part très très vite. L'argent, comme la santé, comme la beauté, comme la jeunesse, tout part très vite, malheureusement. Et ainsi, il s'est retrouvé dans une situation très 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 dommageable. Parce que quand il avait tout, il s'en rendait pas compte, mais quand il a plus rien, il s'en rend bien compte. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça vous a fait. Quand vous l'avez plus, là, vous vous en rendez bien compte, hein, en disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai perdu ma vie? Où est-ce que j'ai perdu le fil de mon existence? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est terrible d'imaginer dans quel état doit se trouver cet homme, peut-être aux portes du suicide. Certains pensent qu'il faut être à ce point désespéré pour tenter le suicide. D'autres vous diront qu'il faut être tellement courageux, mais j'ai tendance à dire qu'il faut être tellement désespéré, hein, tellement désespéré, tellement à bout, tellement dans l'angoisse qu'on commet le geste irréparable, comme pour tout oublier, pour ne se souvenir de rien, pour que tout s'arrête, pour que l'enfer s'arrête, pour que ce soit terminé. Ce n'est pas une solution, évidemment. Cet homme en a trouvé une avant d'en arriver là, alors qu'il a été vendu au service d'un exploitant. C'est un homme qui est tombé dans l'esclavage, c'est un homme qui est tombé dans la misère, c'est un homme qui est tombé dans le péché, c'est un homme qui s'est enfoncé dans la nuit, qui a disparu dans la nuit d'ailleurs, Quand il fait un petit peu nuit, si vous avez reçu du monde à la maison et qu'ils s'en vont et qu'ils doivent emprunter un chemin de 10, 15, 20 mètres, au fur et à mesure, vous allez les distinguer de moins en moins. Parce que dans la nuit, on disparaît. Et cet homme a disparu dans la nuit de ce monde. Pas beaucoup de satisfaction, pas beaucoup de bonheur, beaucoup de galères. Et à un moment donné, il s'est retrouvé devant une seule solution. Vous pensiez que vous en aviez plusieurs de solutions. J'en reviens à Job. Dans tout ce que Eliphaz dit, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une solution. Et aujourd'hui, vous en voyez encore trois ou quatre. J'aimerais vous dire qu'il n'y en a qu'une qui est viable, qu'une qui est certaine et qu'une qui fonctionne. Qu'une seule solution, il va le dire lui-même dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Résolution et action. Qu'une seule solution. Il faut que je retourne à la maison où j'avais tout et que j'en prenne conscience. Il faut que je retourne à la maison où j'avais tout en abondance et que je le réalise. Il faut que je rentre à la maison, que j'apprécie ces choses-là. Alors, parce qu'il n'y avait qu'une seule solution, j'aimerais vous dire qu'il n'y avait qu'un seul scénario. Lui, il s'est imaginé, vous savez ce qu'il s'est imaginé de retour à la maison, comment ça allait se passer? Vous savez? Dites-moi, qu'est-ce qu'il s'est imaginé? Comment ça allait se passer? Mal. Qui pense qu'il pensait que ça allait mal se passer? Levez la main, voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 à peu près. Qui pense que ça allait bien se passer? C'est bien Geneviève. Il y en a d'autres? Qui pense qu'il ne savait pas comment ça allait se passer? Il y en a aussi. Ouais. À votre avis, il y avait combien de scénarios possibles? Pourquoi 3? C'est quoi le troisième? Ou c'est bien ou c'est pas bien? Non, à votre avis? Non? Étienne, combien? 2? Pas 3? T'es sûr? Non, il n'y en a que 2, hein? Il n'y en a que 2, hein? Je pense. Ou c'est bien ou c'est pas bien? Sauf que lui, il ne le sait pas. Mais dans le fond, il pouvait y avoir qu'un seul scénario. Quand on s'en va vers Dieu, quand on retourne vers Dieu, quand on va vers Dieu avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, avec cette espèce de sac qu'on traîne, qui est rempli de toutes sortes de mauvaises choses, qui est lourd à porter, qui est lourd à traîner, on n'est pas très fier à la vérité. Et quand on va vers Dieu, on va se poser la question, aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Non, il n'y a qu'un seul scénario possible. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand le Père l'a vu, de loin, il a couru. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et alors que le fils est en train de lui dire qu'il ne mérite pas de faveur particulière, etc., le Père dit « Amenez le veau gras, tuez-le. Apportez vite un beau vêtement, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des souliers aux pieds. Mon fils que voici était mort. » Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Avec Dieu, il n'y a qu'un seul scénario. Perdu, vous l'êtes déjà, il ne va pas vous perdre davantage. Malheureux, vous l'êtes déjà, il ne va pas vous rajouter un coup sur la tête. Dans la détresse, vous en avez plus que vous pouvez le supporter. Vous croyez qu'il va encore tirer sur la corde? Non. Il va enlever le malheur et il va donner la grâce. Amen. Enlever le malheur et donner la grâce. Ces exemples sont là pour nous rappeler que, avec Dieu, les choses sont totalement possibles. Je veux le relire, ce texte de Job. Je veux le relire. On refait ce qu'on a fait, on se relève pour lire ce texte. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de la bouche de Dieu instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes le péché de ta tente, de ton cœur. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Gloire à Dieu. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux à tes résolutions, répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce, ta bénédiction. Nous venons devant toi parce que tu es le libérateur, parce que tu es celui qui donne la vie. Ah, nous voulons croire qu'il est possible de prendre des résolutions cet après-midi. Il est possible de choisir, il est possible de décider qui l'on veut suivre. Et il est possible de voir la puissance de Dieu se manifester encore aujourd'hui. 2016 sera meilleur que 2015, parce que tu as dit que le meilleur était toujours devant nous, pour qui se confie en toi. Et je prie que tu agisses maintenant et que tu sauves celui qui ne te connaît pas. Tu es là pour avertir, tu es là pour guider. Et tu es surtout là pour éclairer celui qui vit dans les ténèbres, celui qui vit dans l'obscurité, dans la nuit la plus sombre. Tu es là pour te révéler et pour expliquer ce que tu as fait à la croix. Merci d'avoir payé le prix. Merci d'être mort, d'avoir livré ta vie. Je te bénis et je te loue pour ta fidélité. Amen.